Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, y a-t-il des limites aux manipulations génétiques ? Un apprenti sorcier, un docteur Frankenstein, voilà comment les confrères Di Jiankui le qualifient désormais. Le fait est que ce n'est sans doute pas immérité. Le 25 novembre dernier, ce chercheur chinois a annoncé sur YouTube avoir réalisé une première mondiale, la naissance de bébés génétiquement modifiés. La nouvelle a provoqué l'incrédulité pour commencer, dans la mesure où cette expérience a été réalisée, si elle l'a bien été, ce qui reste encore à prouver, en dehors de tout contrôle scientifique. Mais elle a aussi suscité l'effroi, car une telle annonce est crédible. La technique permet aujourd'hui de modifier le patrimoine génétique d'un embryon. L'obstacle à sa mise en pratique est en fait d'ordre éthique. Toute modification germinale du génome est interdite, dans la mesure où elle se transmet ensuite aux descendants. Elle est donc difficilement contrôlable, sans parler bien sûr des dérives eugénistes qui découleraient d'une telle pratique. C'est donc à un véritable tabou que s'est attaqué le chercheur chinois. Il s'en est expliqué juste après à Hong Kong, au deuxième sommet mondial sur la modification du génome humain, en expliquant avoir voulu soulager la famille des deux bébés. Le père est séropositif, la modification du génome de ses futures filles est censée les prémunir du sida, ce qui revient d'ailleurs à transgresser une autre règle éthique, à savoir guérir préventivement des individus d'une maladie qu'ils n'ont pas. Bref, cette affaire repose la question ancienne des rapports entre ce que permet la technique et ce qu'autorise l'éthique. Alors, y a-t-il des limites aux manipulations génétiques ? C'est donc le thème de notre discussion en compagnie de deux invités. Catherine Bourguin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes généticienne, chargée de recherche à l'INSERM. Vous êtes membre du comité d'éthique de l'INSERM. Vous avez publié au Seuil en 2013 ADN, Superstar ou Superflic. Et pour discuter avec vous, Dominique Folchaïd, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, professeur émérite à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous êtes le co-directeur du département de recherche éthique biomédicale au Collège des Bernardins. Et vous avez publié cette année aux éditions du CERF, Le transhumanisme, c'est quoi ? Alors pour démarrer la question, et puisqu'on va beaucoup s'intéresser à ces deux bébés qui seraient aînés et qui ont été baptisés Lulu et Nana, je voudrais d'abord savoir, Catherine Bourguin, si on en sait plus aujourd'hui, justement, sur la réalité ou pas de ce qui s'est passé, et si ça n'est pas le cas, combien de temps faudra-t-il attendre à peu près pour qu'on puisse avoir des certitudes sur cette histoire ?
Alors, à ma connaissance, il n'y a rien de nouveau dans le sens où les dernières informations que j'ai eues, c'est que ce chercheur avait disparu de la circulation. Est-ce qu'il a été attrapé par la police chinoise ? Est-ce qu'il s'est enfui de lui-même ? Je suis incapable de répondre à ça. Donc, on ne sait pas beaucoup de choses de plus. Par contre, lorsqu'il s'est exprimé à Hong Kong, il a donné des précisions techniques sur le type de modification qui avait été faite et sur ce qui avait ou pas réussi, en l'occurrence, le type de bricolage, parce qu'on peut vraiment parler de bricolage, qu'il avait réalisé, qui donne un peu de substance à ce qu'il affirme avoir fait.
Est-ce qu'on peut dire, en tout cas, Dominique Folchaïd, que si cette expérience n'est pas certaine, dans la mesure où on n'est pas absolument sûr qu'elle a eu lieu, on peut dire qu'elle est crédible?
Alors, ça c'est plutôt à l'expérience de le dire, parce que ça suppose, alors au point de vue génétique, que l'on ait mis la main sur ce qui est vraiment prédisposition au sida. Il ajoute d'ailleurs prédisposition au choléra. Il n'y a pas que le sida qui est en vue. Est-ce que l'on peut avoir une démonstration de l'efficacité de la chose au point de vue du raisonnement prospectif? Ça ne tient pas la route, parce que même s'il n'avait rien fait, de deux choses l'une, ou cet enfant ou ces deux enfants seront ou non vulnérables à la contamination par HIV ou pas. Il n'y a aucune démonstration possible dans les règles qui sont celles de la médecine, qui consistent à avoir des cohortes d'essais randomisés contrôlés pour savoir s'il y a une variation entre les deux groupes.
Mais ma question, elle posait davantage sur le fait de savoir si aujourd'hui, en tout cas, on dispose, disons, de la technique qui permettrait de réaliser une telle expérience, Catherine Bourguin.
Pour moi, la réponse est oui. Parce qu'en l'occurrence, la modification génétique qui a été faite est une modification qui est ciblée effectivement sur un gène. C'est un gène qu'on a identifié parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des populations, notamment de prostituées en Afrique, qui étaient étonnamment résistantes à la contamination du sida, alors qu'elles étaient très soumises dans l'environnement. Et on s'est rendu compte par analyse génétique qu'elles présentaient une modification de ce gène, qui s'appelle le gène CCR5. Donc, voilà, ça a été bien décrit. Depuis, il y a eu beaucoup de travaux pour essayer de changer ce gène ADN sur des cellules, donc pas embryonnaires, des cellules, voilà, et on sait faire, enfin on sait plus ou moins faire, mais en tout cas on fait, on modifie ce gène. Donc là, il s'agit d'avoir non plus modifié des cellules, mais des embryons. Et ça, par ailleurs, il y a d'autres publications scientifiques récemment qui ont montré qu'il était possible de modifier des embryons et ensuite implanter des embryons modifiés, on sait faire. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a fait exactement ce qu'on pensait faire ? Ça, c'est, on n'a pas de réponse là-dessus, on n'a que des réponses partielles qui ne sont pas rassurantes. Et la deuxième question, évidemment, c'est celle que vous soulevez, si on a modifié ça, est-ce que vraiment les gens vont devenir résistants ? Et là, évidemment, c'est beaucoup plus aléatoire.
Donc ça pose effectivement la question de l'utilité de mener une telle expérience au regard des connaissances de la médecine et de ce dont souffre ce père et de la possibilité de transmettre ou pas sa séropositivité à ses filles. Mais bon, imaginons, partons de l'hypothèse, Dominique Folscheid, que cette expérimentation a bien eu lieu telle que l'a décrit le chercheur chinois. Vous, votre réaction, ça serait de dire quoi ? On est face à une avancée scientifique, on est face à une régression. C'est-à-dire, comment est-ce que vous qualifieriez ce moment ?
Alors, au point de vue du raisonnement scientifique, il y a quantité de choses qui ne vont pas. Il y a d'abord un risque de confusion entre détermination génétique et expression. C'est-à-dire que s'il y a des prédispositions génétiques, ce qui est évident, encore faut-il que les conditions dites épigénétiques fassent en sorte que le gène s'exprime comme on le souhaite.
Oui, mais pardonnez-moi, Dominique Folscheid, là vous ne répondez pas à ma question. C'est-à-dire, je pars de l'hypothèse que ça a fonctionné. Est-ce que si ça a fonctionné, c'est une avancée scientifique ou c'est une régression scientifique ? Je m'adresse aux philosophes, là.
Oui, mais je vous dirais qu'on n'est pas dans une expérimentation. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une expérimentation. Il a fait une expérience sur un cas dont on ne sait pas du tout ce que ça va devenir, dont on ne pourra rien prouver selon que les enfants attraperont ou pas le HIV. Parce que là, ça dépend aussi de leur comportement. Donc, imaginez que jamais ils ne fassent de bêtises en matière sexuelle. Jamais ils n'attraperont la chose. Comment pourrez-vous prouver que c'est grâce à la manipulation génétique ? Donc, on est hors science de ce point de vue-là. On est hors expérimentation. On n'est absolument pas réglo. On n'est pas dans les clous. On a fait une tentative qui est un événement. C'est-à-dire, on est dans l'histoire. On n'est pas dans l'expérimentation scientifique. Et on ne pourra pas avoir de conséquences puisque... Quand il s'agit de souris, on peut multiplier la progéniture des souris sur un laps de temps très restreint, mais comme on a touché au génome, comment pourrez-vous, en 20 ans, 30 ans, avec deux ou trois générations à suivre, c'est-à-dire jusqu'à 100, 150 ans, etc., donner quelques résultats que ce soit sur la manipulation qui a été faite 150 ans avant.
Donc si je comprends bien ce que vous dites, Dominique Folscheid, c'est quand, dans la mesure où on n'aura pas les éléments de suivi fiables de cet événement, on a du mal à le qualifier. Est-ce que vous, Catherine Bourguin, vous pourriez plus facilement justement qualifier ce moment et dire est-ce qu'on est... Il y a quand même eu une forte émotion, notamment de la communauté scientifique. Alors certes, sur le fait que ça s'était fait hors cadre, a priori, mais ce n'est pas le seul problème que ce moment pose.
Moi, je pense qu'il est extrêmement important de condamner très fermement ce qui s'est passé. La modification germinale de l'embryon est interdite en France et il me semble que c'est pour des bonnes raisons et qu'on touche là à quelque chose d'extrêmement sensible, on touche là à une limite qu'on n'avait jusqu'à présent pas franchie. Et comme l'a dit d'ailleurs le premier sommet qui avait lieu à Washington en 2015, franchir ce pas doit se faire que si on arrivait à un consensus sociétal large sur ces questions qui dépassent très largement la vie des scientifiques et des médecins concernés. Pour moi, on a franchi une ligne rouge et c'est extrêmement grave. Et c'est condamnable à tout égard. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus être trop naïf par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a toute une série de modifications génétiques qui ont été faites sur les embryons en utilisant ces technologies CRISPR. Alors, sans avoir réimplanté ensuite les embryons, mais pour faire de la recherche. Mais ceci dit, la limite est ténue. Réimplanter un embryon, encore une fois, on sait le faire. Donc ça interroge aussi les développements actuels des recherches en matière de modification génétique sur les embryons, qui, eux, ont un aval d'une partie, en tout cas, de la communauté scientifique et médicale. Donc ça interroge de façon plus générale, je trouve, les conditions actuelles du développement de la recherche sur l'embryon. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut réfléchir aujourd'hui.
Alors, je suis tout à fait d'accord sur cette affaire de ligne rouge, parce que ça met en cause, pour une fois, à juste titre, le principe de précaution. Deuxième chose, C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens confondent les précautions et la précaution comme principe. Prendre des précautions, c'est faire en sorte, pour éviter un risque qui peut être identifiable a priori, de faire en sorte de ne pas se trouver dans les conditions où ce risque se réalisera. La précaution, normalement, doit viser ce qui est totalement imprévisible. Et là, il faut faire la différence parce que c'est pas facile. On est tous assurés pour notre voiture. Et effectivement, il est imprévisible de savoir si ma voiture va avoir ou non un accident et moi avec. Mais l'assureur, lui, il a pu globaliser tous les risques et par conséquent faire une répartition a priori. Tandis que là, quand il s'agit de manipuler le génome d'enfants, on ne sait absolument pas ce que ça peut donner dans le futur. Donc, pour une fois, le principe dit de précaution fonctionne. Et il ne doit pas non plus être un obstacle à la recherche scientifique. Alors, pour contourner cette difficulté, là, je renchéris sur ce que vous venez de dire. Les Anglais, eux, ont trouvé le système, c'est-à-dire l'Angleterre vient d'autoriser les essais sur l'embryon parce que l'Angleterre s'est donné une arme suprême qui est l'embryon, on ne connaît pas, c'est seulement à partir du 14e jour. Et donc, de 0 à 14, on a ce qu'on appelle le pré-embryon. Et là, ils l'appellent maintenant matériel humain. Et donc là, c'est toute liberté.
Moi, j'essaie de me placer du côté des parents. Puisqu'il y a plusieurs, d'ailleurs, plusieurs familles qui ont été, c'est toujours ce que dit le chercheur chinois, hein, à qui on a proposé justement cette expérimentation. Je suis séropositif. J'ai un médecin, un chercheur qui me dit, ben voilà, on a la possibilité de faire en sorte que vos bébés à naître soient prémunis contre la séropositivité. Alors, j'ai bien compris, Dominique Feuchette, que vous nous dites, bon, on ne peut pas le prouver par la suite, mais est-ce qu'on peut comprendre que du point de vue d'un parent, quand on sait qu'une technique existe, on ne comprendrait pas qu'elle ne soit pas utilisée?
Alors là, vous mettez le doigt sur la faiblesse générale des populations contemporaines, et même anciennes. Vous agitez la corde de la souffrance potentielle, de l'idée que mon enfant sera exempt de maladie, ce qui a été très bien illustré dans un roman qui est mauvais roman, mais excellent sur le fond, le roman de Peter James, « Des enfants trop parfaits », que je conseille à tout le monde de lire, où pour éviter effectivement un gène défectueux qui lui est bien identifié, c'est le syndrome de Leigh, eh bien les parents se laissent aller à commencer un processus de manipulation. Bon. Et puis ça finit très très mal. Mais en l'occurrence, là, il y a quelque chose qui est complètement biaisé, qui est l'appel à la sentimentalité générale au nom d'une éthique de la médecine. Parce que c'est ça, il s'est défendu, le professeur en question, qui est peut-être en fuite, en disant « je fais de l'éthique ». Alors là, je peux vous développer la chose et vous montrer que ça n'est ni de la médecine ni de l'éthique.
Alors je vais revenir vers vous justement, Dominique Feuchette, mais j'aimerais avoir aussi l'avis de Catherine Bourguin sur cette question.
Là, pour moi, on touche à une question qui est récurrente sur toutes les histoires d'embryons, qui est de savoir qui donne son avis et qui écoute-t-on sur ces questions de modification des embryons. Parce que de façon évidente, quand un couple est face à une souffrance individuelle, il réfléchit avant tout face à cette souffrance individuelle. En l'occurrence, il s'agit beaucoup de la question sociale, de la discrimination dont souffrent beaucoup de personnes atteintes du VIH en Chine. Donc il s'agit bien d'un problème avant tout scientifique et social. Ce n'est pas juste une maladie. Une maladie est toujours quelque chose qui est socialisé. On peut vivre très différemment du sida aujourd'hui selon là où on vit dans le monde. Donc c'est un enjeu social. Et si on interroge que les parents, on n'aura évidemment pas la même réponse que si on interroge également des personnes de la société civile, des politiques, des syndicats, enfin bref, toute une série d'acteurs qui sont importants pour prendre ce genre de décision. La deuxième chose, c'est qu'il est important de ne pas envisager que les solutions technologiques vont régler des problèmes qui sont avant tout des problèmes sociétaux. Et là, on est typiquement dans une situation comme ça, où effectivement, il est possible de faire naître ces petites filles sans qu'elles soient atteintes du virus du sida. On peut envisager des situations de prise en charge des familles. On peut envisager aussi des politiques publiques contre les discriminations à l'égard des personnes qui sont porteuses du VIH. Donc, il existe des solutions sociétales. Et toutes ces promesses de régler des problèmes sociétaux compliqués par des technologies, il y en a de façon récurrente et la plupart du temps, elle ne débouche que sur des nouvelles questions sociales.
Vous qui êtes généticienne, Catherine Bourguin, est-ce que cette réflexion sur les usages qui vont être faits de techniques, en l'occurrence de biogénétique, enfin, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais est-ce que ces réflexions-là, elles se font suffisamment en amont, c'est-à-dire au moment de développer ces techniques, ou bien est-ce que, comme on en a un petit peu l'impression, elles se font une fois que la technique a été développée. C'est-à-dire on développe d'abord et puis ensuite on se pose la question de savoir où est-ce qu'on va mettre des limites.
C'est l'enjeu fondamental. Justement, lors de la conférence de Washington dont je parlais tout à l'heure en 2015, il a été décidé, et ensuite par la suite ça a été repris, qu'il fallait que la recherche se fasse. Il ne fallait pas mettre de limites trop fortes à la recherche, l'utilisation de CRISPR dans les recherches sur l'embryon. Par contre, il fallait des contraintes fortes sur à partir de quel moment on pourrait passer à des embryons implantés chez les mères. Or, quand on développe toutes ces recherches, eh bien, on rend possible, on a dit tout à l'heure, on rend possible. Il n'y a plus que des obstacles techniques éthiques, comme vous l'avez dit. Éthique voulant dire administratif. D'ailleurs, il y a plein de chercheurs qui ont dit le seul problème de ce qu'il a fait, finalement, c'est qu'il n'a pas bien rempli les bons dossiers. C'est quand même incroyable de pouvoir dire ça. Ça montre à quel point il est important, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à ce qu'il y ait des moyens d'organiser des réflexions collectives qui prennent en compte tous les acteurs qui sont potentiellement concernés par ces modifications, qui touchent à quelque chose de fondamental, c'est l'embryon humain, qu'est-ce que ça veut dire être humain ? Et ne pas laisser ces questions régler par des niveaux strictement techniques une fois qu'on a développé les technologies.
Dominique Folscheid, est-ce que vous diriez qu'il faut mettre certaines entraves à la liberté de la recherche au regard de certaines applications, de certaines techniques qui peuvent devenir problématiques, ou bien est-ce qu'il faut laisser une totale liberté et c'est ensuite ceux qui sont en responsabilité de décider des limites qu'il faut poser à l'application de ces techniques?
Alors, je vous répondrai en souscrivant à ce qui vient d'être dit. On est dans une ambiance générale qui rend très difficile de faire quoi que ce soit, puisqu'on en appelle toujours à une technique pour résoudre des problèmes humains. Et ça, c'est dans tous les domaines. On est en fait sous la coupe de la fameuse loi de Gabor, tout ce qui est techniquement réalisable sera nécessairement fait un jour. Ça, c'est le fond de décor, si vous voulez. Deuxièmement, pour la recherche, on est pris dans une idéologie qu'on peut appeler l'idéologie progressiste, qui remonte au XVIIe siècle avec Francis Bacon, donc c'est pas d'aujourd'hui, avec l'utopie extraordinaire de la Nouvelle Atlantide. Et dans la Nouvelle Atlantide, tous les projets que nous faisons aujourd'hui sont déjà écrits noir sur blanc, alors qu'il n'a aucun moyen technique de les réaliser. Donc, la technique n'est pas du tout faite pour autre chose que réaliser nos désirs les plus fous. Et ce sont des désirs qui sont liés à l'imaginaire humain en général. Immortalité, etc. C'est pour ça que le transhumanisme prend le relais de tout ça. Donc, on est dans une perspective, et à ce moment-là, depuis, alors, c'est pas compliqué, 1978, quand Louise Brown est née, Robert Edwards...
Louise Brown, il faut rappeler, premier bébé éprouvette.
Voilà, première bébé éprouvette au monde. Alors, on a salué comme ça, comme étant une solution technique contre la stérilité. Mais c'est bien autre chose. Et Robert Edwards, lui-même, l'a écrit. Il l'a écrit en toutes lettres, parce que les instances éthiques anglaises l'ont embêté, ont refusé ses crédits. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a installé dans son laboratoire son espace éthique à lui. Ensuite, il a publié jusque dans le monde, en France, un libelle dans lequel il dit « Maintenant c'est terminé, il faut que tous les scientifiques sachent qu'aucune loi, de quelque état que ce soit, ne doit venir entraver nos recherches. » Et il a donné le signal. Depuis, c'est la politique du fait accompli. Et on vous répète toujours le même slogan, on n'arrête pas le progrès.
Oui, mais regardez, Dominique Folscheid, l'exemple des bébés éprouvettes me semble assez intéressant au regard de la capacité d'une société à accepter certaines évolutions techniques. Si ça fait débat peut-être à l'époque, aujourd'hui, c'est quand même une technique qui est très largement adoptée. Donc, est-ce que ça ne donne pas raison a posteriori à ceux qui l'ont développée, puisque ça répond finalement à un besoin qui ne fait plus vraiment débat?
Vous dites que ça fait plus débat, mon prochain livre vous montrera que ça devrait faire débat, parce que...
Ça devrait peut-être, mais en tout cas, en l'occurrence, on peut pas dire que ce soit une question qui...
À cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est dans le technicisme absolu. On n'est plus dans un monde, on est dans une technosphère. On vit que de ça, y compris dans les médias, Internet, en matière de sexualité et tout ça. On est complètement englué, et donc on en attend toujours plus. On est addict, on est drogué. Là, je reviens un instant sur cette histoire du progrès, parce que... Quand on dit « on n'arrête pas le progrès », on veut dire deux choses bien différentes. On ne peut pas l'arrêter, et ça c'est vrai. Deuxièmement, il ne faut pas l'arrêter. Vous voyez ? Et les seuls qui protestent contre ça aujourd'hui, mais qui n'ont pas bien compris le film en entier, sont les écologistes.
Catherine Bourguin.
Oui, alors moi je voudrais revenir sur la question d'entrave à la recherche. Parce que c'est un terme qui est très utilisé, la liberté de la recherche, etc. Mais la recherche, c'est une activité humaine qui est conduite dans des sociétés, par des gens qui ont été formés, etc. Et donc, évidemment qu'il y a des règles qui régissent la façon dont on produit notre recherche. Hein. On peut pas produire tout et n'importe quoi. Il y a des règles. En France, on a des lois de bioéthique. Et
qui vont être révisées.
Qui vont être révisées, mais dont tout le monde, en tout cas en France, exprime l'importance de fait de conférer des lois pour, enfin, de rédiger des lois, de reconnaître la pertinence qu'il y ait des lois pour encadrer la recherche. Donc, moi, il me semble qu'il faut arrêter de penser que la recherche est une activité qui serait comme ça libre et non faussée. Voilà. Non, pas du tout. C'est une activité humaine qui se régule et d'autant plus qu'elle prend aujourd'hui, comme ça vient d'être dit, un rôle central dans nos sociétés, un rôle qui interroge énormément les enjeux de démocratie dans nos sociétés.
Oui, mais du coup, Catherine Bourguin, ça veut dire quoi? Qu'il faut avant tout accompagner dès le départ le développement de ces techniques et pas les laisser uniquement aux mains des seuls scientifiques. C'est-à-dire qu'il faut que les questions éthiques, elles se posent dès le départ, peut-être même avec la société. Mais auquel cas, est-ce que ça n'est pas un travail un peu compliqué? C'est-à-dire comment réfléchir à des techniques qui n'existent pas encore?
Effectivement, moi je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est de savoir comment on arrive à politiser le rapport à ces technologies. En France, on a par exemple un office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Donc ça veut dire que dès les années 80, on a reconnu que le Parlement devait réfléchir à ces questions, y compris de façon prospective. Cet office fait régulièrement des rapports prospectifs. Donc être capable de faire de la prospective, c'est extrêmement important, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, la technologie, une fois qu'elle est développée, elle incarne des choix de société. Des choix de société qui ont des effets majeurs, y compris en termes de construction d'inégalités sociales. Alors, l'OPEX, enfin, cet office-là, c'est une solution. Il y a des conventions de citoyens qui sont d'autres formes de procédures qui ont été proposées pour mettre en débat des enjeux techniques un petit peu compliqués avec des citoyens tirés au sort. Et à chaque fois que ça a été réalisé, ces conventions de citoyens, de façon bien structurée, c'est-à-dire en informant de façon contradictoire les personnes qui ont à donner un avis, les avis qui sont rendus sont extrêmement intéressants et pertinents. Donc, plutôt que d'acheter des promesses, parce qu'aujourd'hui, les décisions sont faites avant tout sur des promesses qui sont beaucoup tenues soit par des scientifiques, soit par des gens qui ont des investissements financiers dans ces recherches, hein, parce qu'on n'a pas encore parlé de marché, mais quand même, là, on est quand même sur des questions qui sont extrêmement liées au marché. Plutôt que d'acheter des promesses, eh bien, interrogeons ces promesses, mettons-les en débat démocratique.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Y a-t-il des limites aux manipulations génétiques? C'est la discussion que nous avons aujourd'hui en compagnie de Catherine Bourguin qui est généticienne et Dominique Folscheid qui est philosophe. Alors vous évoquiez la question du marché. Bah, y a un domaine dans lequel le marché est extrêmement présent, c'est celui du sport et du sport business. Il se trouve qu'il y a quelques jours, il y a eu un article dans le Journal du Dimanche que vous avez peut-être lu, article intitulé « Les athlètes génétiquement modifiés dans les starting blocks » et était cité notamment Julien Savulescu, qui est présenté comme un bioéthicien et transhumaniste notoire. Je précise, c'est la façon dont il est présenté dans l'article. Et qui dit notamment ceci, on a déjà identifié des mutations génétiques rares qui confèrent des prédispositions exceptionnelles, comme par exemple l'endurance, l'explosivité, la force. En théorie, on pourrait les copier chez n'importe quel humain. Cela deviendrait alors son patrimoine génétique naturel. Dominique Folscheid, qu'est-ce qui, du point de vue de l'éthique ou de la morale, devrait, en tout cas selon vous, interdire que l'on en vienne à de telles pratiques?
Bon, il faudrait que ça marche, parce qu'il y a eu un essai. Le type qui, pour éviter le supplice des salles de musculation, hein, il s'appelle Zenak, hein, s'est injecté du CRISP, il a utilisé la méthode CRISPR-Cas9, pour se dispenser de musculation, mais avoir de la musculature grâce à son injection de gènes.
Je rappelle que cette technique, CRISPR-Cas9, c'est une façon de modifier le génome.
Ce sont des ciseaux génétiques quand on coupe, ça permet de faire du typex génétique quand on colle, ça permet de rendre un gène inerte, ou ça permet éventuellement des substitutions.
Bon, donc, vous dites qu'il faudrait que ça marche. Bon, c'est la seule limite, c'est-à-dire...
Parce que là,
ça marche, oui. Mais si ça marche?
Alors, le problème de fond, c'est pas celui-là, parce que ça n'a pas marché, mais en même temps, la finance était là, puisque il a fait cette expérimentation en direct sur Facebook, hein, son injection en direct sur Facebook, pour assurer la promotion de sa film qui s'appelle The Odin, du nom de la divinité germanique, et une firme qui prétend, et ça c'est un des dangers qui répond indirectement à la question que vous posiez tout à l'heure, qui permet de créer des petits généticiens de garage. C'est-à-dire, on va fournir des éléments, des données. D'ailleurs, on les achète sur Internet dans le monde entier. Il suffit d'une carte bleue. Et on peut bricoler, on peut faire du bricolage génétique chez soi. Et il y a quantité de gamins aux États-Unis qui sont déjà lancés là-dedans. Et on ne sait pas comment les arrêter, parce qu'ils peuvent, par exemple, modifier un virus.
Mais pour quelle raison faudrait-il les arrêter ?
Alors, vous parliez du sport.
Moi, j'ai envie d'être beaucoup plus musclé, ça m'intéresse, par exemple, voyez.
Alors, effectivement, mais dans la perspective générale, on a le problème déjà des prothèses. Vous voyez Oscar Pistorius qui court plus vite avec ses prothèses en carbone qu'un coureur normal. Bon. Le problème, c'est le passage de la modification à l'augmentation. Avant la modification, est-ce qu'on est ou non dans la réparation ? Alors, ce sont des concepts qui ne sont pas les mêmes et qui se recoupent partiellement. C'est ça l'ennui. Hein ? Dans l'hypothèse que vous citez, il s'agirait de faire des super sportifs, c'est-à-dire en fait de vulgariser ce que les cyclistes du Tour de France font depuis belle lurette. Hein. Ce qui fait qu'on passera d'une compétition entre des cyclistes à une compétition entre des cyborgs. C'est-à-dire, et c'est le laboratoire le plus futé qui gagnera.
Alors est-ce que c'est ça justement une des limites, Catherine Bourguin ? C'est-à-dire quand on est dans la réparation et quand on est dans l'augmentation, c'est peut-être pas la même chose. C'est-à-dire en gros, soit on guérit quelque chose, soit on essaie d'améliorer l'espèce, ce qui est d'ailleurs la définition de ce qu'on appelle l'eugénisme.
Oui, mais finalement, c'est une question extrêmement compliquée. On l'a dit tout à l'heure, une maladie, pour prendre la maladie, est toujours sociale. On n'est pas malade de la même façon du sida, on disait tout à l'heure, selon la société dans laquelle on vit. D'abord, on a accès ou pas aux médicaments. Ensuite, on a des protections plus ou moins disponibles pour ne pas attraper le virus. Donc, cette idée qu'il y aurait d'un côté la maladie et de l'autre côté l'augmentation est une idée qui est quand même compliquée. Et vouloir dire, on va autoriser les modifications génétiques pour les maladies, mais pas pour l'augmentation... Ça pose problème d'ailleurs, c'est ce qui est le plus choquant dans cet exemple avec la recherche, la naissance de Lulu et Nana comme ils les ont appelés, c'est qu'on est bien à la limite, on voit bien qu'on est juste à cette limite et que finalement il y a une espèce de zone grise entre les deux et qu'on peut pas faire comme s'il y avait pas de zone grise et donc avoir une espèce de réglementation qui dirait oui oui c'est très bien pour les maladies, non c'est pas bien pour l'augmentation. Ça dépend complètement du contexte, donc ça c'est vraiment important. La deuxième chose qui me paraît importante, encore une fois, c'est pour revenir sur le cas du dopage, c'est la question encore une fois des promesses. Parce que vous nous dites, supposons que ça marche. Mais pourquoi faudrait-il qu'on commence notre réflexion en supposant que ça marche ? Parce que la plupart du temps, ça ne marche pas comme on avait prévu que ça marche. Donc interroger le « est-ce que ça va marcher ? Comment ? Et si ça marche, qu'est-ce qu'on sait déjà que ça peut faire ? Que c'est susceptible de produire ? » C'est une question éthique importante.
Puisque mais si ça marche pas, il n'y a plus de problème.
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont acceptées parce qu'il y a des promesses. Et qu'on pense que ça marche, et quand on le met en circulation, on se rend compte que ça marche pas comme c'est censé marcher, parce qu'il y a un récit de comment c'est censé marcher. Je vous prends un exemple sur la question. On parlait donc de modification génétique. Vous nous dites on va pouvoir faire naître des athlètes qui vont courir plus vite, qui vont être plus grands, plus forts, etc.
Enfin, je vous le dis,
c'est les promesses qui nous sont mises sur la table. Ça suppose qu'on soit capable de définir quels sont les gènes qui sont impliqués dans le fait de courir vite, par exemple. Alors là, pour le coup, je suis dans mon domaine. On est vraiment dans une situation où on est incapable à partir d'une analyse totale du génome, d'être sûr que si on fait un tri, la personne qu'on a sélectionnée sera effectivement une personne qui court vite, parce que courir vite n'est pas qu'une question génétique.
C'est-à-dire qu'on fait prendre des risques à des individus, Dominique Lanchel ?
L'expérience des cyclistes, ultra-dopés, c'est une collection de morts avant l'âge. Faut bien s'en souvenir. Deuxièmement, sur le fond, pourquoi lutte-t-on contre le dopage ? Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant que la langue a génialement inventé. Est-ce que on soigne ou pas ? Dans le domaine du sportif, notamment en boxe, on n'appelle pas quelqu'un qui soigne un médecin, on l'appelle un soigneur. On veut bien montrer par là qu'il y a une différence entre médecine et traficotage. Bon. Et le vrai problème de fond, c'est que le sport de haut niveau est destiné à mettre des humains en compétition pour qu'ils gagnent sur leur mérite, leur entraînement, etc. Si vous commencez à les suranimaliser, parce que c'est ça, c'est-à-dire vous modifiez leur physique, et à ce moment-là, ce ne sont plus des humains que vous avez en compétition. Ce sont des espèces supérieures d'individus. On est là dans un mythe que les anciens avaient très bien compris, c'est le mythe d'Épiméthée. Épiméthée qui avait été chargé par les dieux de distribuer leurs attributs à tous les animaux. Quand il arrive au bout de la collection d'animaux, il y a l'homme et puis il n'a plus rien dans son petit panier. L'homme est né nu. Et donc son humanisation vient du fait qu'il a conquis son humanité par d'autres moyens que les attributs animaux naturels. Alors Prométhée est arrivé par là, puis il a dit « je vais réparer ça, je vole l'équipement aux dieux et puis je le fournis à l'homme ». Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ? Pourquoi on reparle de prométhéisme ? Mais parce qu'on dit « on va suréquiper l'animal humain » qui est un animal raté pour en faire enfin un animal réussi. Et donc, on escamote complètement ce qu'est la compétition sportive.
Mais on dit aussi, Dominique Folscheid, je me fais l'avocat du diable, hein, évidemment, dans cette émission. On peut aussi considérer qu'il y a des inégalités de départ dans les patrimoines génétiques. Et que finalement, essayer par des manipulations de rétablir un petit peu, en tout cas de corriger certaines de ces inégalités, ça pourrait être un projet tout à fait audible.
Je vous renvoie au film Bienvenue à Gattaca, qui a magnifiquement traité le sujet. C'est-à-dire celui qui est un peu démuni au point de vue génétique, il arrive à compenser par l'entraînement. Suranimaliser les humains ne donnera jamais rien. Parce que à mesure que vous leur donnez plus de capacités initiales, vous diminuez leur marge d'humanisation grâce à leur pratique personnelle. Et que ce soit l'entraînement sportif ou que ce soit la moralisation, que ce soit la socialisation, tout cela risque de dépérir en conséquence. Lorsque vous aurez c'est le problème de l'enfant parfait. C'est le problème de l'eugénisme futur qui est en fait une impasse a priori. L'eugénisme positif s'entend parce que l'eugénisme actuel, c'est plutôt éliminer ce qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait.
Vous avez parlé de suranimalisation de l'humain. Je profite de cette expression, Dominique Folscheid, pour inverser justement cette expression, Catherine Bourguin, à propos peut-être d'une surhumanisation de l'animal. Il se trouve que le journal La Croix vient de publier un long article sur les embryons chimères. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer de quoi il s'agit ? Ensuite, on verra les questions que ça pose. Qu'est-ce que c'est que ces embryons chimères ?
Le principe des chimères, c'est de faire cohabiter ensemble des cellules qui sont issues d'organismes différents. En l'occurrence, on peut faire des chimères homme-souris, par exemple. On va prendre une tumeur chez un patient et puis on va mettre les cellules tumorales du patient en contact avec les cellules de la souris et on va créer quelque chose qui va être un mélange de cellules chimères où il y a à la fois des cellules humaines tumorales et des cellules de souris.
C'est quoi l'intérêt ?
Ça peut être, par exemple, quand on veut être au plus près, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut pas faire d'expérimentation chez l'homme ou chez la femme, mais si on veut mieux comprendre le fonctionnement d'une tumeur précise chez un humain, eh bien, le fait de pouvoir cultiver cette tumeur, regarder comment elle se développe chez un animal, eh bien, ça permet d'avoir des savoirs un petit peu plus près de la façon dont ça se passe chez les humains.
Et quelles sont les limites qui sont posées ? Dans l'article que j'évoquais dans le journal La Croix, il y a notamment cette question qui est posée, que je trouve intéressante. Si j'injecte des cellules humaines dans un animal, reste-t-il un animal ?
Ça, c'est toute la question, bien sûr, de comment les recherches que l'on mène interrogent la façon dont on utilise les animaux et la façon dont on se... Enfin, on voit bien que finalement, quand on se pose au niveau cellulaire, dans un laboratoire, rien ne ressemble plus peut-être à des cellules de souris que certaines cellules humaines qui sont de même type de cellules. Donc, au laboratoire, finalement, faire ce type de manipulation ne pose pas forcément de questions très compliquées, si ce n'est des questions techniques qu'on arrive à surmonter. Et donc, ça montre bien à quel point il est important de sortir de ces pratiques de laboratoire pour interroger, parce que quand on sort de ces pratiques de laboratoire, les questions se posent de façon extrêmement différente. Et c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai pas à répondre personnellement. Je pense que sur la question de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça, c'est une question qui interroge chacun de nous, en fait, et qui doit se poser à ce niveau-là.
Dominique Folscheid.
Alors, il y a une autre option qui est l'exploitation de l'animal pour faire des greffes. Mais là, on ne sait pas demain la veille qu'on en aura, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'un cochon humanisé pourra livrer comme cœur compatible, etc. Bon, c'est très difficile. Mais on peut envisager une autre hypothèse que les Russes, à l'époque de Staline, avaient envisagée très sérieusement. Au lieu de faire des surhommes par ce procédé, faisons des sous-hommes. C'est le thème du chimpanzé-homme. C'est-à-dire, comme l'a expliqué Aldous Huxley d'ailleurs dans Le meilleur des mondes, on va non pas essayer de guérir des embryons de maladies potentielles en les manipulant génétiquement, on va brimer leur développement pour avoir des epsilon inférieurs qui rempliront des tâches sans faire grève, sans retraite, sans rien. Et c'est beaucoup plus pratique. Donc, il ne faut pas oublier ce deuxième aspect-là, qui est, au lieu de chercher à faire le plus, qui va être extrêmement difficile, ce serait peut-être plus simple de faire le moins. Ça a déjà été tenté en Russie avant que l'intéressé aille au goulag, parce qu'il avait voulu faire des mix d'orang-outans et de femmes.
Mais est-ce que cette tentation-là, vous diriez qu'elle est proche aujourd'hui, ou bien est-ce que...
Oui, dans les pays anglo-saxons, ils en parlent absolument, oui.
Et ah oui. Et pour vous, du coup, la réponse, ça doit être quoi? Ça doit être une réponse législative, c'est-à-dire pays par pays? Ça doit être, je sais pas, moi, peut-être une gouvernance mondiale pour vraiment s'assurer que ces expérimentations-là ne sont pas menées jusqu'à leur terme?
Vous n'empêcherez jamais quelqu'un d'aller dans un pays qui n'a pas signé les conventions internationales de faire ses petites affaires. C'est déjà arrivé pour le bébé à trois parents, où l'Américain qui a fait la première tentative est allé au Mexique, où il n'y avait pas de loi. La Chine, vous ne l'arrêterez pas. La différence, c'est que la Chine fait tantôt des expériences qui n'ont pas de conséquences, parce que essayer de traiter par CRISPR-Cas9 des cancéreux en fin de vie, si ça marche, très bien, et si ça marche pas, de toute façon, ils n'auront pas d'enfants. Donc, le principe de précaution, à la limite, est invalidé. Vous n'empêcherez pas de faire des choses de ce genre, parce qu'il y a des enjeux financiers, des enjeux militaires, et puis maintenant, attention, vous oubliez, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, il y a un flot de dollars venant des GAFA, Amazon, PayPal et consorts, qui se déversent sur tous les laboratoires du monde. Et les scientifiques vont devenir fous. On les rend fous par les finances, et puis bon, ils vont pouvoir essayer de faire n'importe quoi.
Catherine Borguin ?
Oui, moi je pense qu'il y a une bataille politique au sens le plus noble de la démocratie. Hein, quand on dit « on n'empêchera pas », ça suppose que donc on doit rendre les armes devant des dérives, qu'on est je pense assez nombreux à ne pas vouloir advenir. Au contraire, peut-être que c'est compliqué de se battre contre effectivement des forces de marché extrêmement importantes, avec des gens derrière, hein, les forces de marché, elles n'avancent pas toutes seules, devant des rêves de techno-fixe. Hein, ou des techno-optimismes, enfin bref. C'est compliqué, mais si on n'en fait pas un enjeu politique, on a perdu d'avance. Donc là, moi, ma question, c'est pas de savoir si on va y arriver ou pas. Quand on mène une bataille d'idées, on la mène sans savoir si on va gagner à la fin. On la mène parce qu'on considère que c'est un enjeu majeur.
Oui, mais on la mène aussi en se disant que l'objectif qu'on cherche à atteindre est un objectif atteignable. Si mais on là, considère qu'on peut pas l'empêcher, est-ce qu'il faut pas se dire, mais il faut essayer peut-être d'encadrer, de ralentir au maximum?
Je pense que de mon point de vue, c'est pas comme ça qu'il faut. Enfin, je ne réfléchis pas comme ça, plus exactement. Effectivement, il faut qu'il y ait des régulations transnationales. Là, l'OMS a dit qu'elle allait prendre position suite à l'expérimentation chinoise. Il faut qu'il y ait tous les niveaux internationaux qui peuvent prendre position pour demander des moratoires sur ces questions de modification génétique des embryons doivent pouvoir le faire. Et après, il y a une bataille culturelle. Il y a une bataille culturelle, c'est-à-dire qu'on sait bien que ces organisations transnationales ou internationales sont assez faibles. On ne va pas se cacher les yeux. Et pourtant, il y a une bataille culturelle. On peut gagner des choses sur les positions. On peut obtenir des moratoires. Il y a des technologies qui ont été arrêtées dans l'histoire. Et on peut considérer que même s'il y a une espèce de force de marché très forte, on pourrait arrêter.
Et juste, dernière question, dans cette bataille culturelle, brièvement, comment se positionne la France, Catherine Borguin? Et même question pour Dominique Wallstein.
La France est plutôt un pays dans lequel le clonage est interdit, le fait de d'implanter des embryons modifiés aujourd'hui est interdit en France. Donc la France est plutôt du côté des pays qui sont modérateurs dans cette course-là.
Dominique Wallstein.
Alors effectivement, mais d'un autre côté, quand on voit les avis du Comité national,
Comité consultatif national
d'éthique du début et les avis actuels, on voit qu'il y a une inversion totale de jurisprudence. C'est-à-dire tout ce qui était refusé au départ est maintenant en gros accepté. Néanmoins, la France reste effectivement résistante. Deuxième réponse, nous sommes devant quelque chose qui est beaucoup plus gros que vous ne l'imaginez. Craig Venter, chef d'un laboratoire américain extrêmement important, dit « nous sommes des hommes jouant à Dieu, des playing good men ». Et dans la presse anglo-saxonne, il y a eu une controverse et quelqu'un a répondu « et pourquoi pas ?». Et donc effectivement, c'est comme ça que ça va se passer. Et je pense, comme ma collègue, qu'il faut que ça soit une révolte d'écologie humaine et que le public soit concerné.
Et pour rester dans les anglicismes, je renvoie à votre prochain livre, Dominique Wallstein, Made in Labo, de la procréation artificielle au transhumanisme. Ça sera publié au printemps prochain aux éditions du CERF. Merci beaucoup à vous. Merci Catherine Borguin. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié au Seuil, c'était en 2013, ADN, Superstar ou Superflix. Cette émission, vous pourrez la réécouter sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, émission réalisée par Payré Legras avec à la prise de son Julien Calvas. Demain, la Suisse est-elle le paradis de la démocratie? Tout de suite, c'est la dispute avec Arnaud Laporte.